Radio Prague, les informations.
Bonjour et bienvenue à l'écoute. Alexis Rosenzweig au micro pour le bulletin d'information dont voici tout de suite les titres. Un milliardaire a acheté un bâtiment pour la future bibliothèque de l'ancien président Václav Havel. L'ONG tchèque People in Need lance une collecte d'aide au Pakistan. Et puis en sport, du foot avec la liste des joueurs sélectionnés pour le prochain match de la République tchèque contre la Lettonie. Le milliardaire tchèque Zdeněk Bakala a acheté un bâtiment dans le quartier du Château de Prague pour accueillir la future bibliothèque Václav Havel, l'ancien président tchèque dont il partage un grand nombre d'opinions apparemment. L'information a été confirmée par le directeur de cette bibliothèque, précisant que le bâtiment devrait encore subir des travaux de restauration et d'aménagement pendant environ un an et demi. L'ancien président et dramaturge, qui tourne actuellement son premier long métrage, aurait donné son aval pour ce bâtiment. Il s'agit d'une maison, place Notre-Dame de Lorette, où a notamment vécu en son temps la femme du président Edward Beneš. La bibliothèque Václav Havel a été créée sur le modèle des bibliothèques des présidents américains et rassemble toute une palette de documents sous diverses formes contenant la vie et l'œuvre de l'ancien président. Elle devrait également servir de lieu de rencontres et de débats. L'organisation non gouvernementale tchèque People in Need a lancé une collecte d'aide au Pakistan, touché, vous le savez, par des inondations dues à la mousson. L'ONG va envoyer 2 coordinateurs sur place et les fonds récoltés serviront à assurer les besoins vitaux de base des habitants. Le nombre de victimes de ces inondations avoisine des 1500 et 100 000 personnes, notamment des enfants, souffrent des conséquences des crues de maladies infectieuses telles que le choléra. On passe au sport avec du football et le gardien de Chelsea, Petr Cech, récemment blessé, et le meneur de jeu d'Arsenal, Tomáš Rosický, qui revient sur les terrains après une longue absence. Et tous les deux ont été retenus par le sélectionneur de l'équipe nationale tchèque, Michal Bilek, pour le match amical qui se jouera le 11 août prochain, la semaine prochaine à Liberec, contre la Lettonie. L'attaquant Milan Baroš, toujours à Galatasaray mais toujours blessé, ne fait pas partie de la liste. Ce sera le dernier match de préparation avant le début des qualifications pour l'Euro 2012 et le premier match des Tchèques qui se jouera contre la Lituanie. Culture, le célèbre guitariste de jazz Paco de Lucía se jouera mardi soir à Prague dans la salle de la maison municipale, Obecný dům. Un concert qui se déroulera à guichet fermé. Ce n'est pas la première fois que ce grand nom du jazz se produit à Prague, puisqu'il avait déjà participé à un festival de guitare il y a 3 ans dans la capitale tchèque. Et ce mardi, celui qui est considéré comme le roi du flamenco jouera avec un groupe composé de 7 musiciens dans le cadre de la série de concerts Jazz Meets World. Un mot sur la météo pour finir. Avec ce mardi, jour de fête des Milouchers en République tchèque, un ciel couvert avec des averses sur l'ensemble du territoire. Il pleut en ce moment à Prague et les températures aussi entre 20 et 24 degrés pour les maximales. On se retrouve dans 3 heures pour un nouveau bulletin, mais dans un instant, c'est la suite du programme en français de Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque. Anna Kubišta.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des faits et événements. Au programme du jour, la disparition annoncée du numéro d'identification nationale, souvent critiqué pour être un mouchard, sur les données sensibles des citoyens. D'ici à 30 ans, il devrait avoir totalement disparu. Le projet École sans frontières entend promouvoir l'enseignement du tchèque à l'étranger à destination des enfants issus de couples mixtes. Nous en parlerons avec la fondatrice de la première école à Paris. Enfin, nous vous proposerons un entretien avec l'écrivaine Cécile Weisbrot qui a récemment participé au mois de la lecture à Brno et Ostrava. Bonne écoute de ce programme. En République tchèque, toute démarche administrative ne peut se faire sans l'incontournable rodné číslo, ou numéro de naissance en français, qui sert à identifier les individus. Mais à l'heure où l'on s'attache à préserver les données sensibles, son existence semble obsolète, voire dangereuse. Et le nouveau gouvernement souhaite lancer une réforme de fond qui devrait conduire à sa disparition à terme. En France, il existe le numéro de sécurité sociale qui contient des données d'identification sur les individus. Le rodné číslo fonctionne à peu près de la même façon poissons à ceci près que, contrairement à la France, celui-ci s'utilise dans tous les domaines de la vie courante sans exception. Les 6 premiers chiffres indiquent votre date de naissance et si vous êtes un homme ou une femme, et les 4 derniers chiffres votre lieu de naissance et des numéros aléatoires empêchant l'existence de doublons. À l'heure actuelle, ce numéro sert à peu près pour tout, pour créer un compte bancaire, pour payer ses impôts, pour l'assurance santé et la sécurité sociale, mais on peut également le demander lors de la signature d'un bail ou bien pour l'abonnement téléphonique. Preuve de son caractère quasi indispensable en République tchèque, même les étrangers peuvent en obtenir un, ce qui en général leur simplifie par la suite grandement la vie. Mais à l'ère d'Internet et de la numérisation des données, celles contenues par le Rodné Číslo paraissent beaucoup trop transparentes et intrusives. Le nouveau gouvernement de coalition va donc lancer une réforme, en réalité déjà entérinée auparavant lorsqu'a été approuvée la loi dite des registres fondamentaux. Si le numéro d'identification nationale commencera d'abord par être moins utilisé, disparaissant d'ici 2 ans d'une grande partie des papiers officiels, l'objectif est de remplacer petit à petit les numéros contenant des données sensibles par des numéros aléatoires, sans signification particulière, qui ne pourront pas révéler le sexe, la date ou le lieu de naissance de la personne. Alors évidemment, supprimer ce système d'identification qui date de 1947 ne peut pas se faire du jour au lendemain. L'un des auteurs de la réforme évoque une 30aine d'années avant la disparition totale du Rodné Číslo. D'ici là, le nouveau système d'identification se mettra progressivement en place, parallèlement à la création d'une nouvelle carte d'identité qui commencera à être délivrée à partir de 2012. Une carte qui devrait se présenter comme une carte bancaire avec un code PIN et qui comprendra les données de chaque citoyen sans Rodné Číslo. Une question subsiste quand même, cette carte d'identité du futur pouvant contenir des données biométriques, la disparition du Rodné Číslo n'est-elle finalement pas une bien maigre concession à la protection du citoyen si celui-ci doit confier ses caractéristiques physiques individuelles et uniques à l'administration publique? La deuxième rencontre internationale des représentants d'écoles tchèques sans frontières en Europe et dans le monde se tenait ces lundi et mardi dans la capitale tchèque. Jarka Gisubelova a profité de l'occasion pour inviter au micro Lucie Slavíková Boucher, fondatrice de la première école pour enfants tchèques issue de couples mixtes à Paris, où elle est installée depuis 20 ans.
Ça commençait en automne 2003 avec quelques enfants qui venaient au centre culturel tchèque d'Izvir Bonaparte où était créée la Tchécoslovaquie en 1918, donc un lieu tout à fait symbolique pour la chose, et d'une rencontre par semaine un mercredi après-midi, nous avons fait l'enseignement de l'âge préscolaire et l'école en soi de la langue et littérature tchèque et l'histoire et géographie tchèque.
Quelle est la conception de l'école tchèque sans frontières?
Ça veut dire que les enfants fréquentent des écoles de langue étrangère dans le monde et ils obtiennent très difficilement l'éducation en langue tchèque, non uniquement le vocabulaire et la façon de parler, mais la capacité de suivre la littérature, de lire réellement et de connaître l'histoire et la géographie. Donc avoir en tête l'image du pays telle que les enfants dans les écoles tchèques peuvent obtenir.
Cette rencontre a été l'occasion de parler de quelques difficultés auxquelles vous heurtez, d'autres législatifs et autres.
Je dirais les écoles qui sont bien établies déjà dans le monde, donc pas les filiales qui sont en train de commencer, qui rencontrent toutes sortes de problèmes matériels, d'organisation, d'enseignants, etc. Nous, on a franchi un peu cette étape et maintenant, notre but serait d'obtenir une sorte de certification de la part du ministère de l'Éducation nationale tchèque pour qu'on puisse délivrer des certificats qui seraient établis sur la base des connaissances des enfants, et ces certificats seraient reconnus en République tchèque par la suite. Donc, ça serait une sorte d'enseignement à l'étranger reconnu en République tchèque.
Votre objectif est donc aussi d'accomplir la Constitution de la République tchèque.
La Constitution de la République tchèque dit que tout citoyen tchèque a droit à l'éducation tchèque. Donc, et il n'est pas spécifié si c'est à l'étranger ou si c'est sur le territoire tchèque.
Est-ce que le nombre d'élèves augmente ainsi que l'intérêt pour cette école?
Tout à fait. C'est lié à la mobilité des Tchèques, des jeunes qui vivent et évoluent dans l'espace européen sans aucun problème. Donc le nombre de couples mixtes ne cesse de croître. Et effectivement, plus on est professionnel et plus on est connu, plus on fait partie de tout un groupe qui travaille ensemble et qui a même des projets inter-écoles entre des différents pays, plus on est intéressant pour les parents.
Et est-ce qu'on peut dire en conclusion, est-ce que vous avez une ambition pour l'avenir, un défi?
Un défi serait d'avoir un système à l'étranger, des écoles qui offrent donc la langue, notamment la langue tchèque et la littérature, fonctionnelle, où les parents voudraient envoyer leurs enfants, et que ces structures aideraient à augmenter le nombre de jeunes qui parleraient parfaitement le tchèque et qui seraient capables après, à long terme, de collaborer avec la République tchèque sur tous les niveaux culturels, économiques. Et ça créerait en fait un pool de jeunesse érudite qui serait en contact intime avec la République tchèque. Elle serait prête à faire quelque chose pour son pays d'origine.
C'était Lucie Slavíková Boucher au micro de Jarka Gisubelova. À noter encore que les écoles tchèques sans frontières sont aujourd'hui établies dans plusieurs pays, en Grande-Bretagne, à Londres. 2 centres se trouvent également en Suisse, 3 centres en Allemagne, 1 en Belgique, 1 à Sydney, et d'autres vont ouvrir bientôt aussi à Rome, à Madrid, en Argentine et en Slovaquie. Une 30aine d'auteurs français a participé au mois de lecture publique, un véritable festival des littératures françaises et tchèques organisé en juillet dans les villes de Brno et d'Ostrava par la maison d'édition Vietarné Mlyny. Parmi les participants, il y avait aussi la romancière française Cécile Weisbrot. Avant de partir de République tchèque, elle a évoqué ses impressions au micro de Václav Richter.
Vous venez de participer au mois de lecture publique dans les villes de Brno et Ostrava. Quelle a été votre impression? Est-ce que vous avez noué un contact avec le public tchèque?
Avec le public tchèque, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, j'ai été impressionnée d'abord par la qualité d'attention qu'il y avait, par le nombre de personnes qui venaient et l'intérêt des questions posées aussi. J'ai été impressionnée aussi par l'organisation, dans le sens où, en même temps que la lecture, il y avait un écran sur lequel la traduction tchèque figurait. J'ai trouvé cette idée vraiment extraordinaire de permettre aux gens d'entendre le son d'une autre langue, mais de pouvoir comprendre en même temps ce qui se lit. Et c'est une performance aussi d'arriver à, pour la personne qui faisait dérouler le texte sur l'écran, d'arriver simplement en écoutant le texte à savoir se repérer, à savoir quel passage projeter. Et donc voilà, moi j'ai été impressionnée, on peut dire, par cet intérêt pour la littérature, pour la France en l'occurrence.
Pendant un temps, vous avez présenté la littérature des pays de l'Est au magazine littéraire. Qu'est-ce que cette littérature vous a donné? Est-ce que ça vous a permis aussi de connaître la littérature tchèque?
Oui, bien sûr. Parmi les littératures dont j'ai pu rendre compte, il y avait la littérature tchèque. J'ai écrit beaucoup d'articles, par exemple, sur les livres de Hrabal, qui étaient traduits à l'époque, à la fin des années 80, début des années 90. Je me souviens d'un roman de Ivan Klima aussi que j'avais beaucoup aimé. J'ai lu Vatsouli, voilà, enfin beaucoup d'autres.
Vous écrivez souvent pour la radio. Cet entretien d'ailleurs sera aussi diffusé à la radio. Qu'est-ce que le travail pour la radio vous donne et quelle est la différence entre le travail pour la radio et les textes qui doivent être publiés?
Oui, j'aime beaucoup écrire des textes pour la radio, donc des fictions, des dramatiques. Il y a certains de mes romans, par exemple Mémorial, le roman qui s'appelle Mémorial, il a commencé par Enfin, je ne savais pas qu'il y aurait un roman après, mais j'ai d'abord écrit un texte pour la radio qui était un petit peu dans l'idée de ce roman, en même temps qu'il n'avait aucun rapport. Et je pense que c'était comme la matrice de ce roman. En fait, de façon plus générale, j'ai l'impression que les textes pour la radio, souvent, sont un peu comme un laboratoire pour les romans et me servent à expérimenter des formes. Par exemple, donc, je parlais de mémorial. J'ai utilisé dans un texte écrit pour la radio qui s'appelait Consolation un système avec des voix. C'était une femme enfermée dans une poste, enfin qui passait la nuit dans la poste, qui attendait le matin pour être délivrée. Et ça se passait dans une ville de Pologne qu'elle était allée voir et où sa famille avait vécu. Et dans cette poste, il y avait les voix de ses ancêtres. Et Mémorial, c'est un roman qui raconte le voyage d'une narratrice en Pologne dans la ville dont sa famille est originaire. Et dans ce voyage, elle est accompagnée par des voix aussi. Donc c'est un système un peu différent, mais cette idée des voix, elle est venue avec la radio, et évidemment, elle est venue dans une écriture pour la radio parce que je pensais au son et donc aux voix de la radio. Moi, j'aime beaucoup la radio. J'écoute très, très souvent la radio. La nuit, j'ai souvent du mal à dormir. J'écoute la radio. Même ici, j'ai écouté, même si je ne comprends pas, bien sûr. Enfin, je peux piquer quelques mots, mais j'aime bien.
C'est avec la romancière française Cécile Weisbrot, interrogée par Václav Richter, que se terminent ces faits et événements. Retrouvez cette romancière dans la rubrique littéraire de ce week-end. On parlait tout à l'heure des écoles tchèques sans frontières. On continue à parler éducation tout de suite dans la rubrique habituelle du mardi.
Panorama.
Panorama.
République tchèque.
Transformation à l'école tchèque, le harcèlement entre pairs, P-A-I-R-S évidemment, une décadence des mœurs scolaires, c'est le titre de l'article paru en France il y a quelques semaines dans les dossiers des sciences de l'éducation. Son auteur Magdalena Korhout-Diaz est docteur en sciences de l'éducation et professeur de philosophie à l'IUFM d'Aquitaine. Alexis Rosenzweig l'a jointe par téléphone pour lui demander quelques explications.
Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à ce phénomène du harcèlement entre élèves dans les écoles tchèques?
Alors, il y a plusieurs raisons, trois en particulier. D'abord, les recherches ont été menées dans le cadre de l'Observatoire international de la violence scolaire, qui est une ONG et où nous sommes plusieurs chercheurs. Nous cherchons à comparer des données concernant l'ampleur du phénomène violence en milieu scolaire. Donc phénomène auquel est relié le fait du harcèlement entre pairs à l'école. Voilà.
Quelle est l'ampleur justement de ce phénomène du harcèlement à l'école en République tchèque?
Alors ça, c'était justement l'objet de l'enquête, moi, que j'ai menée en 2005 en République tchèque, c'est-à-dire c'était de mesurer l'ampleur du phénomène. En réalité, moi, je me suis confrontée aux résultats de plusieurs enquêtes tchèques, donc locales, qui donnaient des résultats contradictoires concernant l'ampleur du phénomène. Alors, il y avait en particulier une enquête plutôt d'orientation psychologique ou psychopédagogique qui donnait des résultats absolument alarmants. 41% des élèves du second degré seraient harcelés par d'autres élèves. Bon, voilà le résultat qui était alarmiste et qui était très, très médiatisé. Et d'autre part, il y avait une enquête un peu plus confidentielle, plutôt orientée dans les sciences sociales, qui tempérait ce chiffre-là et des résultats très alarmistes, voilà, et situait, je crois, le nombre, le pourcentage d'élèves harcelés autour de 16 à 18 % des élèves aussi dans le second degré. Bon, et dans les deux cas, en tout cas, la fiabilité scientifique des résultats pouvait être remise en cause. Et donc, c'est ce que je me suis appliquée à faire, moi en particulier.
Et vous avez vous-même réalisé une étude, je crois, portant sur une quinzaine d'écoles tchèques, c'est bien ça?
Exactement. Et plutôt, je me suis appliquée, donc 15 écoles tchèques, plutôt dans des milieux, disons, favorisés, sans non plus, des milieux CSP moyenne favorisés, et puis des publics répartis de manière assez équilibrée entre garçons et filles, et entre premier et second degré.
Et quel a été le résultat de cette étude, si je peux vous demander de le résumer brièvement?
Oui. Alors, le résultat essentiel de cette étude était de deux ordres. Le premier résultat, c'était vraiment mettre en évidence que le phénomène du harcèlement entre pairs n'était pas du tout alarmant. En tout cas, c'est ce que, en particulier les élèves, mais aussi il y avait une partie adulte, les adultes, en particulier les enseignants, ont massivement avancé qu'il n'y avait pas véritablement de violence entre les élèves eux-mêmes. C'était vraiment des résultats pas très très importants. Et deuxième donnée absolument massive, ce que les élèves et les adultes disent, c'est que l'élément qui caractérise la violence scolaire en République tchèque, c'est l'impolitesse, donc autodéclarée, des élèves envers notamment les enseignants. Donc une agressivité des élèves envers les enseignants. Et c'est ce qui, comparativement à la France, c'est ce qui effectivement paraît le plus saillant. Et c'est ce qui paraît définir réellement le climat scolaire en République tchèque, d'après l'enquête que j'ai menée. Donc une impolitesse des élèves envers les enseignants.
C'est de l'insolence. Comment vous l'expliquez 20 ans après la chute du communisme avec l'évolution du système scolaire tchèque?
Alors voilà, ça c'est une dimension un peu paradoxale, cette impolitesse. Donc en tchèque, neslušnost. Donc je proposerais moi de garder pour des raisons de traduction la notion d'impolitesse et de pas migrer vers la notion d'agressivité. Et puis je trouve qu'il y a une dimension effectivement paradoxale liée au passé, c'est-à-dire paradoxalement on garde des normes éducatives très très conformistes qui sont de se conformer à la politesse telle qu'on l'entendait dans le milieu scolaire dans la période pré-communiste et communiste, c'est-à-dire cette slušnost, cette conformité aux bonnes mœurs. Donc on a encore ces normes qui existent, mais elles tendent à être remises en question, ce que le milieu éducatif perçoit comme neslušnost, donc comme de l'impolitesse. Une autre précision, ce que les élèves ont également mis en avant massivement, c'est qu'ils ont peu confiance dans les compétences des enseignants et en particulier leurs compétences pédagogiques. Donc là, il semblerait qu'il y ait un gros travail à faire dans la formation des enseignants concernant un savoir-faire pédagogique plus interactif, c'est ce que demandent les élèves.
Est-ce que
la pédagogie du jeu, le travail de groupe par exemple.
Est-ce que vous pensez que cette impolitesse est caractéristique du système scolaire tchèque ou c'est plutôt dans les pays post-communistes qu'on retrouverait peut-être ce phénomène?
Alors j'ai pas de, pour le moment, il n'y a pas d'éléments comparatifs encore scientifiquement fiables. Il n'y a que des observations empiriques, puisque j'ai été également mené des observations donc empiriques en Bulgarie, en Slovénie. Il semblerait que il y ait là une caractéristique du climat scolaire dans certains pays du moins de l'ancien bloc soviétique, mais cette impression, cette intuition est à confirmer par des enquêtes scientifiques rigoureuses.
Vous revenez bientôt réaliser d'autres études en République tchèque?
Oui, effectivement. Alors, je compte bien sûr poursuivre ces recherches. Et en particulier, il s'agit bien sûr d'explorer plus avant cette et de cerner plus précisément encore de manière plutôt qualitative cette notion d'impolitesse, de neslouchnost, réorienter, comme je l'explique un peu dans l'article, réorienter vraiment la recherche vers l'analyse de l'impact du passé sociopolitique sur l'évolution du système éducatif actuel et en particulier l'évolution actuelle et la compréhension actuelle du phénomène de la violence scolaire en général. Voilà, et comme je viens de l'évoquer, effectivement explorer de manière plus pointue le rapport à l'autorité, bien sûr, dans le milieu scolaire.
Merci beaucoup, Magdalena Coudiaz. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.
Merci, au revoir.
À très bientôt, au revoir.
Les émissions en langue française de Radio Prague sur ondes courtes, c'est terminé, mais les émissions de Radio Prague continuent évidemment sur le web, en retranscrit. Notre adresse, vous la connaissez, c'est le www.radio.cz. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.
En su receptor Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 8 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 14 horas UTC transmitimos para España por los 11.720 kHz. A las 18 y 19 horas UTC los oyentes españoles nos pueden sintonizar por 5.930 kHz. Radio Praga transmite a las 20:30 horas UTC para España y América Latina por los 5.930 kHz. Los oyentes latinoamericanos nos pueden sintonizar a las 23 horas UTC por las frecuencias de 9.440 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 9.445 kHz a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A las 0:30 horas UTC los radioescuchas de Centro y Sudamérica nos pueden sintonizar por los 9.790 kHz.